pense que le monde a besoin aujourd'hui d'être réimaginé autrement.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Les religions, nos identités et nos temps troublés, voilà ce dont nous allons parler avec notre invité Amin Mahalouf. Bonne écoute.
La première.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
Les dieux rendent arrogant celui dont ils veulent la perte, disaient les Grecs anciens. Dans leur mythologie, où les sentiments étaient représentés par des divinités allégoriques, l'arrogance s'appelait hubris. Tous les hommes qui parviennent à s'élever au-dessus de leurs semblables, par le statut, par la richesse, par la puissance, par le talent, ou même par la sainteté, croisent un jour ou l'autre le chemin de ces tentatrices. Et rares sont ceux qui savent lui résister. La chose est vraie des individus, ainsi que des communautés humaines, et singulière des nations. C'est ce qu'écrit notre invité dans son nouvel essai. Amin Mahalouf est à nos côtés. Le plaisir avant tout, est-ce ainsi que se résume la pensée d'Épicure ? Élément de réponse tout à l'heure dans notre grand dictionnaire avec Simon Brinfo. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça. Amin Mahalouf, vous êtes né en 1949 à Beyrouth, au Liban. Vous êtes écrivain, romancier et essayiste. Et il y a peu, vous avez été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française. Vous êtes l'auteur notamment des livres suivants, Les identités meurtrières, Le dérèglement du monde, Le naufrage des civilisations et le tout dernier a pour titre Le labyrinthe des égarés, L'Occident et ses adversaires. J'en lisais un extrait en ouverture. Vous racontez l'histoire des trois pays qui ont voulu au fil des siècles renverser l'Occident, à savoir le Japon, la Russie et la Chine, nous y reviendrons. À quoi ressemblait le Beyrouth de votre jeunesse, Amin Mahalouf ? J'ai envie de commencer par là, parce que vous dites que c'était un exemple en matière de coexistence entre les religions.
C'est vrai que le Beyrouth de ma jeunesse était d'abord évidemment multicommunautaire, multiconfessionnel, et il y avait une relation, je ne dirais pas totalement sereine entre les communautés, mais c'est une relation assez civilisée. On avait des relations de respect mutuel. On connaissait assez bien, souvent, en tout cas dans ma famille, on connaissait bien les autres communautés. On avait des relations d'amitié. On se visitait. Et je dirais que cela aurait pu évoluer différemment. Je ne dis pas que c'était déjà un exemple à imiter. C'était l'ébauche d'une relation saine entre les communautés. Malheureusement, ça n'a pas évolué de la manière que je souhaitais. Et plus grave encore, j'ai l'impression que le reste du monde a évolué plutôt dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction d'un communautarisme de plus en plus amer, de plus en plus violent aussi.
Pourquoi est-ce que les religions, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé, vous en avez toujours fait un thème de préoccupation ? C'est lié à votre histoire personnelle ? C'est lié à votre histoire familiale, Amin Mahalouf ?
C'est lié à mon histoire familiale, mais d'une manière assez particulière. Dans ma famille, la religion était présente, mais beaucoup plus au sens des valeurs qu'au sens identitaire. Il y a eu des dissensions dans ma famille entre des communautés différentes. Par exemple, j'avais un arrière-grand-père qui était prêtre, catholique, mais comme vous le savez sans doute, dans les communautés orientales, un homme marié peut être ordonné prêtre. Pas l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà prêtre ne peut pas se marier. Mais quelqu'un qui est déjà marié peut être ordonné prêtre. Et donc, mon arrière-arrière-grand-père était prêtre catholique. Son fils s'est converti au protestantisme. Et il y a toujours eu dans ma famille paternelle des tensions entre une branche catholique, une branche protestante. Ces tensions étaient quand même liées à des conflits sur les valeurs, sur les idéaux ou sur la foi au sens des dogmes et des croyances, mais pas du tout, comme c'était le cas dans le reste du pays, au point de vue identitaire. Parce que l'une des calamités de cette partie du monde, c'est que l'appartenance religieuse est d'abord une appartenance identitaire. Oui. On appartient à une communauté religieuse comme on appartient à une ethnie, à une nation, à une tribu. Et ce lien entre la religion et l'identité a certainement ruiné beaucoup de pays à travers le monde, et en particulier mon pays natal, le Liban.
Et de ce lien, vous en reparlez dans votre nouveau texte, Amin Maalouf, vous écrivez à un moment, il y a notamment une question qui me paraît fondamentale, celle du rapport à la religion. Dans les pays de tradition monothéiste, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ainsi que dans le monde hindouiste, ce rapport se révèle de plus en plus pernicieux, surtout en raison du lien malsain qui s'y est établi entre religion et identité. Et vous nous invitez, en fait, dans votre nouveau livre, à nous mettre à l'école de l'Asie orientale. Qu'est-ce que nous avons à y apprendre, Amin Maalouf ?
Sur ce plan en particulier, le monde confucéen a une attitude qui m'apparaît plus saine, parce qu'il y a une déconnexion entre la religion et l'identité. J'ai un exemple en tête, celui de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen est considéré un peu comme le père de la nation chinoise. Il a été le premier président de la République au moment de l'abolition de la monarchie. Et il est vénéré par tous les Chinois, qu'ils soient à Pékin, à Taipei ou dans la diaspora. Or, Sun Yat-sen s'était converti au protestantisme et même plus précisément à l'anglicanisme dans sa jeunesse. Et ça n'a jamais affecté son rôle politique, son image au sein de la nation chinoise, alors même que la nation chinoise était en conflit avec l'Angleterre et avec d'autres pays occidentaux. Et donc, cette
déconnexion
me paraît très salutaire comparée à ce qui arrive dans d'autres régions. Je vous donne d'autres exemples de la même région. Au Japon, une même personne peut, dans sa vie, pratiquer le bouddhisme, dans certaines occasions pratiquer le christianisme, demeurer shintoïste, etc.
Sans devoir s'expliquer.
Sans ressentir de véritables contradictions déchirantes. Venant d'où je viens, c'est-à-dire du Proche-Orient, où les questions religieuses et identitaires sont très imbriquées et conduisent à beaucoup de violence, à beaucoup de discrimination, de persécution. Ce que je vois en Asie orientale est assez réconfortant.
Les déchaînements identitaires, en particulier ceux qui s'appuient sur une référence divine, empoisonnent l'existence de la plupart des sociétés humaines et ils ne cessent de s'aggraver. Vous écrivez encore « L'identité, c'est l'ingrédient le plus toxique des haines de notre époque ». Est-ce que ça explique, au moins, en partie, le retour de la guerre au Proche-Orient ?
Cette question-là. En partie, oui. Disons que le nationalisme dans la région que j'aime bien appeler le Levant, qu'on peut appeler le Proche-Orient, le nationalisme a pris de plus en plus, dans les dernières décennies, une expression religieuse. C'est vrai dans le monde arabe, c'est vrai en Iran, c'est vrai en Israël, c'est vrai un peu partout. L'expression religieuse du nationalisme, ce n'était pas la règle. Il y a encore, disons, un demi-siècle, ce n'était pas la règle. Il y avait une forme de nationalisme qui pouvait être très virulent, qui pouvait même être xénophobe, comme on l'a vu en Égypte, où on a expulsé toutes les communautés qui n'étaient pas d'origine égyptienne, dont la famille de ma mère. C'était une forme de nationalisme qui ne se référait pas explicitement à la religion. Aujourd'hui, et je dirais c'est vrai depuis la fin des années 70, le nationalisme a pris résolument une expression religieuse.
Et c'est vrai aussi pour ce qui concerne la guerre aujourd'hui entre le Hamas et Israël ?
Certainement. Il est certain que le Hamas est une organisation qui, dès l'origine, est une organisation qui se réclame de la religion. Le Hamas était à l'origine de la branche palestinienne des frères musulmans. Et donc, on est dans l'expression très claire d'un nationalisme religieux, et c'est vrai aussi de l'Iran. En Iran, la révolution khoméniste de la fin des années 70 était une révolution nationaliste religieuse. C'est une réalité qui est très forte dans cette partie du monde et qui a des retombées grave dans le reste du monde également.
Mais est-ce que c'est vrai aussi pour Israël ? On a entendu ces dernières semaines le Premier ministre israélien faire référence notamment à la Bible pour justifier certains actes.
Je pense que c'est vrai également en Israël. Je pense qu'il y a eu en Israël, dans les dernières décennies, une dérive de l'opinion vers des positions de plus en plus dures. Et la frange de la société qui était plutôt pour une vision laïque et aussi plutôt pour une solution négociée avec le monde arabe, cette frange qui représentait probablement, il y a une quarantaine d'années, la moitié de la population, aujourd'hui est devenue très minoritaire dans la population. Et je pense donc que des deux côtés de la barrière, nous avons aux commandes des forces plutôt dures, plutôt vindicatives, plutôt peu prêtes au compromis et aux solutions pacifiques. Avec le résultat que l'on voit.
Mais pourrions-nous dire que c'est en partie, comme on l'a entendu de la part de certains experts, une forme de guerre de religion ou une forme de guerre d'identité? Vous diriez quoi?
Guerre de religion, je n'utiliserai pas tellement cette expression parce que cette expression se réfère à ce qui s'est passé en Europe. En Europe, les guerres de religion tournaient autour du dogme. On se battait sur l'interprétation de la religion. Ce n'est pas le cas. Là, nous avons des guerres identitaires dans lesquelles l'expression de l'appartenance est religieuse, mais elle aurait pu être ethnique ou raciale ou autre. Donc ce ne sont pas vraiment, ce sont des conflits entre des groupes religieux, mais j'hésiterais beaucoup à les qualifier de guerre de religion.
Depuis le 7 octobre 2023, les cas d'antisémitisme, mais aussi d'islamophobie et d'autres discours de haine sont en hausse. En France comme en Belgique, des juifs et des musulmans disent ne pas se sentir en sécurité. Ça vous inquiète, Amin Maalouf, vous qui rêvez, je vous cite, d'un monde réconcilié, d'une universalité partagée dont personne ne serait exclu. Ce sont des mots extraits de votre nouvelle.
Ça m'inquiète beaucoup parce que je crois qu'il faut tout faire pour que ces événements du Proche-Orient, qui ont commencé il y a de nombreuses décennies, qui vont, si l'on est réaliste, qui vont se poursuivre encore pour de nombreuses générations, il faut faire en sorte qu'elles n'affectent pas la vie d'autres sociétés, des sociétés comme la société française ou la société belge ou d'autres, devraient pouvoir se préserver de ces conflits, ne pas devenir, elles aussi, des terrains d'affrontement. Bon, peut-être que j'exprime un vœu pieux, mais je pense que ça n'aiderait personne que tous les pays du monde deviennent des terrains d'affrontement pour un conflit qui risque de durer indéfiniment. Il faudrait pouvoir se préserver. Et j'espère encore que la sagesse va prévaloir et que l'on saura trouver un moyen pour que les gens puissent vivre ensemble, qu'ils puissent continuer à considérer qu'ils ont des compatriotes de toutes les communautés, des chrétiens, des musulmans, des juifs, qu'ils peuvent trouver un modus vivendi, qu'ils peuvent ensemble aider à calmer les choses au Proche-Orient, aider à résoudre ces problèmes de manière à ce que tous les peuples de la région puissent vivre dans la dignité et la paix, plutôt que de se laisser soi-même entraîner dans une spirale de violence et de haine.
Pour faire face au communautarisme, vous disiez en 2019 que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un dispositif de vigilance. Qu'entendiez-vous par là, Amin Maalouf ?
Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas considérer que lorsque des populations venues d'origines diverses, avec des croyances diverses, vivent dans les mêmes pays, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit d'attendre pour qu'elles commencent à s'entendre entre elles. Il ne faut pas croire que le temps joue forcément en faveur de la paix et de l'harmonie. Il faut beaucoup de volontarisme dans cette affaire. Il faut considérer que le fait d'avoir des communautés différentes qui se côtoient, c'est une question grave qui mérite d'être traitée avec sérieux. Il faut chercher
des solutions. Ce qui n'a pas été fait ?
À mon avis, ce n'est fait nulle part. Ce n'est fait nulle part. On arrive.
Mais ça veut dire faire quoi ?
D'abord, prévenir toute forme de discrimination en amont. Essayer de diffuser le savoir, de diffuser aussi la richesse dans toutes les communautés.
Que toutes enseigner les communautés, les autres cultures.
Enseigner les autres cultures. Faire en sorte que les personnes n'éprouvent pas le sentiment d'une humiliation d'elles-mêmes ou de leur culture ou de leur civilisation. Il faut gérer ces questions avec beaucoup de sérieux et au quotidien. Il ne faut pas juste attendre
que ça se lève. On va écouter à présent l'islamologue et écrivain Rachid Benzine. Il estime que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin du mot « pardon ».
On voit bien que face à la logique terroriste du Hamas répond une autre logique qui est celle de la vengeance. Cette question du pardon, il va falloir un moment la poser, mais il faut la poser de part et d'autre. Et seule cette question du pardon, qui est une question pratiquement impossible, qui est une question pratiquement indéfinissable, que très peu de gens peuvent entendre, c'est le seul, je dirais, lien qui va nous permettre à un moment de pouvoir essayer d'imaginer deux États pour pouvoir nous en sortir, mais que la question du pardon, elle est fondamentale, elle est au cœur. Mais est-ce que on est capable d'entendre cette question du pardon? Je crois qu'aujourd'hui, très peu. Et on voit bien que même des gens qui étaient pour la paix se disent d'abord, il faut qu'il y ait une vengeance pour qu'il puisse y avoir de la paix. Et je crois que ça met beaucoup en crise nos valeurs et la conviction de beaucoup de gens qui renoncent, d'un point de vue clanique, à l'exigence de justice de part et d'autre.
Rachid Benzine, en octobre 2023, est-ce que vous le rejoignez ? Est-ce que le pardon sera une sorte de passage obligé, Amin Maalouf ?
Je pense que ce que dit Rachid est tout à fait, va dans le sens de la conciliation, de la réconciliation. Et ce sont des paroles de sagesse. Nous vivons un moment très difficile où les populations estiment à tour de rôle qu'elles sont victimes et qu'elles ont besoin de se venger. Et je crois que ce sentiment ne fait que nourrir la haine et ne résout pas les problèmes.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors de ces humiliations ?
Vous savez, vous...
On dit pardon ?
Vous posez une question tout à fait pertinente, mais dans cette partie du monde... on n'a pas les réponses. Malheureusement, depuis des décennies, on cherche des solutions. Moi, je fais partie des gens qui ont espéré à plusieurs reprises qu'on allait trouver des solutions, que tous ces peuples de la région qui ont tous des potentialités énormes, qui ont beaucoup d'éléments en commun, d'ailleurs, dans leur culture, pourront un jour dépasser leur conflit, bâtir quelque chose.
Cet espoir existe encore ?
Malheureusement, il est de moins en moins présent. Ça relève maintenant beaucoup plus de l'utopie, on n'a pas le sentiment qu'il y a aujourd'hui une perspective réaliste d'une solution. Mais il ne faut pas désespérer. Je crois que si on considère qu'il n'y aura jamais de solution et qu'on va continuer à s'entretuer à l'infini, c'est extrêmement grave, non seulement pour les pays de la région, y compris mon pays natal, le Liban, mais c'est vrai pour le monde entier, à commencer par l'Europe. Je pense que le monde entier est en train de subir les conséquences de ce conflit toxique qui se prolonge depuis des décennies et qu'on n'arrive pas à résoudre.
Dans votre précédent livre, Le naufrage des civilisations, vous évoquez longuement la guerre des six jours, la guerre israélo-arabe de juin 1967. Vous écrivez que les Arabes sont restés sur cette défaite et ils n'ont jamais retrouvé leur confiance en eux-mêmes. Vous ajoutez « Je serais presque tenté d'écrire noir sur blanc, c'est le lundi 5 juin 1967 qu'est né le désespoir arabe ». Un désespoir qui a mené à quoi, Amin Maalouf ?
Qui a mené à la haine de soi et à la haine des autres, et qui a mené cette région du monde à des décennies de conflits sans perspective de solution. Cela fait plus de 50 ans que dure cette après-guerre du Proche-Orient. Et ce sont 50 années de plus en plus difficiles où on n'a assisté qu'à des déchaînements identitaires qui redoublent de violence, d'ailleurs.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en ces temps de tensions identitaires, vous nous faites remarquer aussi que nos semblables, je vous cite, n'ont jamais été à ce point nos semblables.
Ça, c'est une réalité du monde d'aujourd'hui. La mondialisation fait que nos contemporains, nous tous, nous nous ressemblons de plus en plus. Nous sommes de plus en plus similaires. Nous avons de plus en plus les mêmes aspirations, les mêmes comportements, plus que nous ne le croyons. Et en réalité, cette mondialisation nous pousse à devenir de plus en plus similaires, et en même temps, par le même mouvement, elle nous pousse à affirmer nos différences justement pour résister à cette uniformisation. Donc, on ressemble de plus en plus à nos voisins, et en même temps, on veut affirmer notre différence pour démontrer qu'on ne leur ressemble pas. C'est une caractéristique du monde d'aujourd'hui. Et elle peut mener à beaucoup de violence, parce que les identités ne sont pas vécues avec sérénité, elles sont vécues avec hargne et avec violence.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Je suis effaré quand j'entends mes contemporains et parfois quand je m'entends moi-même parler des affrontements à venir, notamment entre les États-Unis et la Russie ou la Chine, comme d'événements comme les autres dont on pourrait deviser sereinement autour d'une table entre amis. C'est ce qu'écrit notre invité dans Le labyrinthe des égarés, son nouvel essai. C'est l'écrivain Amin Maalouf qui est avec nous cette semaine. Comment devrions-nous en parler idéalement de ces conflits à venir, Amin Maalouf ?
Vous savez, ce qui s'est passé à Hiroshima, à Nagasaki en 1945, a créé dans le monde une frayeur par rapport à une guerre nucléaire. Et donc, pendant 70 ans, 75 ans, nous avons été persuadés qu'il fallait à tout prix éviter un affrontement de ce genre. Ce qui est arrivé avec la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire avec la disparition d'une puissance nucléaire sans tirer un seul coup de feu, a donné le sentiment que finalement, cette frayeur que nous avions des arsenaux nucléaires qui un jour allaient détruire la planète est une fausse frayeur et que nous ne risquions rien et que, quoi qu'il arrive, au dernier moment, quelqu'un viendra nous tirer en arrière au bord du précipice pour éviter le pire. Et cette fausse sécurité que nous avons est dangereuse. Nous allons vers des affrontements. Nous sommes en train d'aller vers une nouvelle course aux armements totalement imprévisible, avec l'idée que ce n'est pas grave, parce qu'au dernier moment, quelque chose va arriver qui va éviter le pire, comme ça a été le cas depuis la fin de la Seconde
Guerre. Et pourtant, Amin Maalouf, vous écrivez, ce qui est profondément désolant, c'est que cet affrontement planétaire vers lequel nous marchons comme des somnambules est constamment présenté comme une vision réaliste de l'avenir, tandis que ceux qui voudraient l'empêcher apparaissent comme des rêveurs naïfs et quasiment insensés.
C'est vrai, quand on dit aujourd'hui, il faudrait quand même que les Américains, les Chinois, les Européens, les Indiens, les Russes trouvent une manière de vivre ensemble, de coopérer, de résoudre les conflits.
Oh, doux rêveur.
Voilà, on dit voilà, c'est un doux rêveur. Mais alors, quelle est l'autre solution? On va aller comme ça, les yeux fermés, vers des affrontements, simplement parce que c'est le réalisme. Je pense que...
Tout à l'heure, c'est un mot que vous avez employé, réalisme, en parlant de ce qui allait se jouer ces prochaines années au Proche-Orient.
Oui, je pense qu'il faut être à la fois réaliste et ambitieux dans ses rêves. Je pense que le monde a besoin aujourd'hui d'être réimaginé autrement. Nous avons besoin de sortir des sentiers battus. Nous ne pouvons pas continuer à accepter les dérives actuelles. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que les conflits qui sont actuellement en train de se déchaîner un peu partout continuent indéfiniment. Il faut qu'on trouve des mécanismes.
Et ça passera par l'imagination, par l'imaginaire. Imaginer de nouveaux chemins vers la paix, par exemple, c'est permis de penser ça?
Oui, nous avons besoin d'imaginer un monde différent. Nous ne pouvons pas simplement gérer le monde avec une sorte de réalisme résigné. Nous avons besoin de nous dire à quoi doit ressembler le monde de demain, quel monde voulons-nous construire, et nous avons besoin de construire cet autre monde, un monde réconcilié, un monde qui puisse survivre.
Ouais.
Parce que le monde tel qu'il est en train d'évoluer aujourd'hui ne va pas survivre.
Mais rêver ne sera pas suffisant.
Rêver ne suffit pas. Il faut aussi rêver. Il faut imaginer, il faut avoir un peu de créativité, un peu d'imagination pour sortir des sentiers battus, pour sortir du monde tel qu'il est en train de se faire aujourd'hui. Imaginer un monde différent, construire un monde différent. Bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut commencer à se dire le monde est égaré, le monde est dans une impasse, il faut le sortir de l'impasse et il faut que les gens prennent conscience du fait qu'on va dans le mur et que c'est une question de survie, de faire face à toutes ces crises qui nous assaillent, que ce soit les crises politiques, les crises qui...
Vous parlez notamment des dérèglements climatiques.
Les dérèglements climatiques, les dérives de la technologie. Il y a beaucoup, beaucoup de périls qui se pointent à l'horizon. Nous devons les prévoir et nous devons les éviter. Le Titanic sur lequel nous nous trouvons devrait pouvoir éviter les icebergs qui sont sur son chemin.
Rêvons un peu alors, Amin Maalouf. Les recherches historiques que vous avez menées pour ce nouveau livre vous amènent à écrire que l'on fait fausse route si l'on croit que l'humanité doit obligatoirement avoir à sa tête une puissance hégémonique. Alors place au rêve, de quelle gouvernance avons-nous besoin idéalement pour demain? Vous le savez ça?
Ce qui est certain, c'est que si une puissance ou même un groupe de puissances essaie aujourd'hui de dominer le monde, c'est la promesse de conflits à l'infini. Nous avons besoin d'une gouvernance mondiale dans laquelle beaucoup de puissances devraient être partie prenante, dans laquelle le monde entier, grandes et petites puissances, devraient se sentir représentées. Nous devons imaginer le monde tel qu'il peut être avec la mondialisation actuelle. Nous sommes dans un monde qui s'est complètement métamorphosé, mais les mentalités n'ont pas suivi. Nous avons besoin de faire en sorte que les mentalités suivent, que le mode de gouvernement du monde suive. Maintenant, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Il faut peut-être partir de ce qui existe déjà, c'est-à-dire les Nations Unies qui ont été formées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais en les transformant, en faisant des dispositifs qui permettent d'éviter les conflits ethniques, d'éviter le déclenchement des guerres, de résoudre les problèmes.
Ça ne marche pas jusqu'ici.
Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas seulement que ça ne marche pas, ça marche moins qu'à aucun moment depuis des décennies. Et c'est tellement grave que les crises se multiplient. Vous vous rendez compte du nombre de crises qui ont éclaté ces derniers temps, du nombre de guerres. Déjà en Europe, on pensait que la guerre était bannie pour toujours. Ça recommence. Le Proche-Orient, ça reprend avec une violence inouïe. L'Afrique, on a toute la zone sahélienne qui est à feu et à sang, et tout est à l'avenant. C'est-à-dire, on est vraiment dans un monde qui est en état d'urgence absolue.
Et vous sortez ce mot que voici, vous le mettez à l'avant-plan, c'est le mot coopération, Amin Maalouf.
Il faut qu'on ait conscience du fait que l'aventure humaine est une. Même si nous sommes des factions multiples, des clans multiples, des nations multiples, l'aventure humaine est une, l'humanité est une. Nous devons retrouver les valeurs de l'universalité. Et pour moi, ça c'est mon credo de base.
On va écouter encore à propos de l'identité Delphine Horviller.
Aucun de nous ne parle avec une seule voix. Là, au moment où je vous parle, en fait, dans ma tête, il y a la voix de ma famille, de mon histoire, de mes appréhensions, de mes peurs, de mes ratages.
Et il y a un petit peu celle de Delphine Horviller, quand même.
Oui, mais Delphine Horviller, je pense qu'elle se décline sous toutes ses voix. En fait, je n'ai jamais une seule voix quand je parle. Et je trouve qu'un élément de... Voilà, de la terreur que suscite parfois en moi la période dans laquelle on vit, c'est qu'on demande beaucoup aux gens aujourd'hui de n'avoir qu'une seule voix, de n'être qu'une seule chose. On leur dit, mais alors, qui parle, au nom de quoi, décline ton identité monolithique et unique pour t'adresser au monde, alors qu'en fait, nos identités, elles sont toujours millefeuilles.
Delphine Horviller, en octobre 2022. Delphine Horviller, qui est rabbin. Il y a combien de voix dans votre tête en ce moment, Amin Maalouf ?
Je pense que comme Delphine Horviller, il y a toujours beaucoup de voix, il y a beaucoup d'appartenances. J'ai une appartenance qui est liée à ma région d'origine, le Liban, le Proche-Orient, le monde arabe. Il y a aussi une appartenance qui est liée à ma patrie d'accueil, à ma patrie adoptive, la France, l'Europe, l'Occident. Et tout cela vit en moi simultanément. Je n'ai pas besoin de choisir, je n'ai pas besoin de rejeter une partie de moi-même pour adopter l'autre. Je crois que l'essentiel de ma vision des identités, c'est que chacun d'entre nous est fait d'innombrables appartenances et que notre premier devoir et de faire cohabiter nos appartenances au sein de notre...
À l'intérieur de nous, accueillir nos appartenances.
Et c'est comme cela que nous devenons des traits d'union entre les différentes cultures du monde, entre les différentes civilisations, entre les différents peuples du monde. Chacun d'entre nous a ce devoir d'être un trait d'union.
Delphine Horviller qui propose, qui conseille de polluer nos identités. Vous la suivez ?
Je pense qu'elle veut dire qu'il faut assumer tous les éléments de notre identité, qu'une identité n'est pas un élément chimiquement pur dont il faut éloigner tout ce qui peut venir perturber cette pureté, cette prétendue pureté.
Qui n'existe pas.
Je me retrouve parfaitement avec elle sur cela. Il faut assumer tous les éléments de notre identité, toutes nos appartenances, et c'est comme cela que nous pouvons être utiles aux sociétés au sein desquelles nous vivons et à l'ensemble de nos contemporains.
À la fin de votre nouvel essai, il y a cet avertissement. Si l'Europe et les États-Unis ne profitent pas du sursis que leur offre l'histoire pour construire enfin un système international dans lequel l'humanité entière pourrait se reconnaître, il est possible que cette opportunité ne se représente plus. Demain, les rapports de force pourraient changer. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que c'est à l'Europe et aux États-Unis de construire ce système international ? Amine Maalouf.
Parce que les États-Unis demeurent aujourd'hui la première puissance. Et quand on est la première puissance, on a une responsabilité, plus que d'autres. Et l'Europe, parce qu'il me semble qu'elle peut être et qu'elle doit être une force de sagesse et de sérénité dans le monde. L'Europe a une expérience historique.
L'Europe incarne la sagesse pour vous aujourd'hui ?
Elle incarne potentiellement la sagesse.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a une histoire avec le reste du monde qu'elle a assimilée, qu'elle a comprise et qui lui donne un élément de sagesse, un élément d'humilité aussi dans ses relations avec le reste du monde. Parce qu'elle a une histoire intérieure de conflits extrêmement violents qu'elle a su dépasser. Et je pense que l'Europe aussi, parce qu'elle est multiple, parce qu'elle est faite de nations différentes, a la possibilité aujourd'hui de jouer un rôle rassembleur. Elle a plus que d'autres la possibilité de proposer au monde une nouvelle donne. Je crois qu'il y a quelque chose là que l'on devrait mettre en avant. Moi, j'y crois profondément. Et d'ailleurs, qui d'autre ? Qui aujourd'hui dans le monde est capable de proposer une nouvelle voie ? Je crois que l'Europe doit accepter d'assumer son rôle. Son problème, c'est qu'elle a peur de jouer un rôle. Elle n'a pas d'appétit pour un rôle global. Je dirais que les autres puissances ont un peu plus d'appétit qu'elles ne devraient. Et l'Europe a un peu moins d'appétit qu'elle ne devrait pour un rôle global.
À la fin de vos livres, il y a toujours au moins un rayon de lumière, Amine Maalouf. Dans le précédent, vous écriviez « Je suis persuadé qu'un sursaut demeure possible ». Et ici, vous écrivez « Il n'est pas trop tard ». Quel est le principal élément qui vous permet de dire ça aujourd'hui, Amine Maalouf ?
Continue à croire que quand on arrive à un point où on voit le précipice et on voit qu'on va vers le précipice, il y a quelque chose, une réaction de survie qui prend le dessus. On se dit, bon, ça suffit, on arrête là et on cherche des solutions. Ça peut venir de la crise climatique qui, un jour, risque de nous mettre devant une épreuve qui menace l'humanité entière. Et ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose qui est lié aux armes nucléaires ou autres. Mais en tout cas, à un moment donné, il va y avoir forcément une menace que nous allons ressentir comme une menace réelle qui exige de nous un sursaut. Et peut-être à ce moment-là, nous allons
peut-être
devenir responsables, ce que nous ne sommes pas vraiment aujourd'hui.
Merci Amine Maalouf d'avoir été avec nous cette semaine. Le labyrinthe des égarés, c'est votre nouvel essai et c'est publié chez Grasset. Merci pour cette conversation.
Merci à vous.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
Notre grand dictionnaire est aujourd'hui Épicure. Bonjour Simon Brinfaut.
Bonjour Pascal.
Épicure, un philosophe grec qui a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Oui, alors d'Épicure, ce que nous retenons habituellement, Pascal, outre le fait qu'il enseignait dans un jardin, c'est un adjectif épicurien. Oui. Si je dis de vous que vous êtes épicurien, cher Pascal, je sous-entends que vous profitez de la vie, vous recherchez le plaisir, tous les plaisirs, sans limite. Vous êtes un jouisseur, un bon vivant, comme on dit. Bref,
c'est
vous êtes ce qu'on pourrait appeler, en philosophie, biographie un hédoniste. Or, un hédoniste, ce n'est pas un épicurien, ce serait même plutôt l'inverse.
Et c'est quoi alors un épicurien, Simon? Qu'est-ce qu'il prône en fait, Épicure?
Eh bien, le fondement de la doctrine d'Épicure, Pascal, c'est le plaisir. Sa philosophie pourrait se résumer de manière très simple. Dans la vie, il faut rechercher le plaisir et éviter la peine, la douleur. Mais cela ne veut pas dire faire n'importe quoi, car on le sait, certains plaisirs, sans modération, procurent justement de la souffrance et de la douleur. L'idée d'Épicure, c'est donc de jouir du plaisir le plus serein possible, le plus stable possible, atteindre ce qu'il appelle le souverain bien, bref, atteindre une vie sans trouble, apaisée, heureuse, ce qu'on appelle en grec l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Et selon Épicure, bah, c'est précisément ce que la sagesse nous procure.
Et c'est quoi alors, au fond, le plaisir pour Épicure?
Bah, Épicure ne donne pas une définition du plaisir, car le plaisir est pour lui de l'ordre de la connaissance innée. Pour savoir ce qu'est le plaisir, bah, il faut par exemple observer les animaux ou les enfants. Il ne faut pas juger le plaisir de façon intellectuelle. Le plaisir n'est pas quelque chose qui se déduit, il s'identifie avec les sensations et les affections, tout comme la douleur. Le plaisir et la douleur sont toujours vrais pour Épicure, il n'y a pas besoin d'arguments pour les prouver. En matière de plaisir et de douleur, il faut donc faire confiance à son corps et à ce que nous sentons. Or, le problème, justement, c'est que nous avons tendance à surinterpréter ou à dénaturer ce que nous sentons.
Et donc, que faire dans la vie, selon Épicure, toujours?
Eh bien, Épicure, Pascal, ne propose pas une morale comme le fera un peu plus tard le christianisme, par exemple. Pascal, chez lui, il n'y a pas d'obligation, d'injonction, de principes moraux. Épicure ne propose pas non plus une classification des plaisirs. Il ne dit pas que tel plaisir est meilleur qu'un autre. Le plaisir est toujours bon pour lui et la douleur est toujours un mal. Si la débauche donc nous rendait profondément heureux, Pascal, il faudrait être débauché. En fait, Épicure nous propose une éthique du discernement, de la modération, ce qu'on appellerait aujourd'hui la sobriété. Épicure nous dit en fait de prendre attention au plaisir, de ne pas séparer le plaisir de la vie, car le plaisir, c'est l'énergie vitale. Ce qu'il nous propose, c'est donc un examen de conscience pour mener la meilleure des vies possibles. Et selon lui, pour atteindre cet objectif, il faut évaluer nos désirs. Il existe trois types de désirs pour Épicure. Le désir naturel est nécessaire, dormir, manger, boire par exemple. Le désir naturel est non nécessaire, la sexualité. Et enfin, le désir non naturel est non nécessaire, là il y en a plein, la recherche du profit ou de la gloire par exemple. Il nous apprend donc, Épicure, à distinguer dans les désirs ceux qui ne conduisent jamais au plaisir, ceux qui ne procurent qu'un plaisir fugace et ceux qui nous font accéder à un plaisir stable.
Mais au fond, est-ce que ça n'est pas une vision de la vie assez austère, finalement, qu'il nous propose?
Ben oui, on pourrait dire ça, Pascal, mais pourtant, chez Épicure, on jouit. Mais c'est une jouissance contenue, pourrait-on dire. Le plaisir consiste plus, en définitive pour Épicure, si vous m'avez bien suivi, à éliminer la douleur dans nos vies. Ce qu'Épicure redoute le plus, ce sont les travers de l'excès qui risquent, si on n'y fait pas attention, de nous rendre malheureux. C'est donc une jouissance dans la sobriété, justement, mais qui n'a rien à voir avec l'austérité. Et ça, précisément, c'est peut-être un bon enseignement pour aujourd'hui, pour nous qui nous demandons parfois si une vie plus sobre peut être désirable.
Et Simon Brinfaux sur la première. Merci à vous, Simon.
Merci, Pascal.
Bonne journée.
Et Dieu dans tout ça
sur la première.